France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Renforcement des soins palliatifs et droit à l'aide à mourir, c'est le moment du vote à l'Assemblée sur ces deux textes, l'un consensuel, l'autre plus sensible. Nous retrouverons Rosalie Lafarge au Palais Bourbon. La CGT dresse une carte des plans sociaux en France et accuse l'État d'inaction. Reportage d'Annabelle Grelier. Elon Musk donne la priorité à ses entreprises. Le patron de Tesla et SpaceX quitte son poste de conseiller du président américain à la tête du DOGE, le département pour l'efficacité gouvernementale. Nous ferons le bilan de son action avec Claude Guibal. Et puis 2 ans, jour pour jour, après la promulgation d'une loi anti-homosexualité en Ouganda, l'ONG Human Rights Watch détaille les conséquences de cette loi. Discrimination et violence généralisées contre les personnes LGBT et ceux qui les soutiennent. C'est une étape majeure pour la réforme sociétale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La création d'un droit à l'aide à mourir est soumise au vote des députés. Ils doivent aussi se prononcer sur le développement des soins palliatifs, mais ce sujet est très consensuel, alors que les conditions de l'administration d'une substance létale ont soulevé de nombreuses questions. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, où les explications de vote ont débuté il y a maintenant 1 an et demi. Le vote ne devrait plus tarder.
Oui, 1 h 30. Les défenseurs de l'aide à mourir refusent de crier victoire trop tôt, mais ils sont à ce stade assez confiants. Le député MoDem Olivier Falorni porte cette loi aujourd'hui et plus largement ce combat depuis des années.
Il serait quand même paradoxal que ce texte qui a été adopté en commission, dont chacun des 20 articles a été voté en séance, tout présage d'une adoption par l'Assemblée nationale. Et j'espère la plus large possible.
Difficile de prédire ce qui va se passer précisément. Les groupes laissent aux députés la liberté de vote et l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, chez Horizon, qui elle va voter pour, le résume ainsi.
Je dirais que l'aide à mourir n'est ni de gauche ni de droite. Que sur ce sujet, plus que tout autre, nul ne peut s'ériger en détenteur exclusif de la morale.
À gauche, on s'attend quand même à une majorité de vote favorable, comme celui du socialiste Stéphane Delautrette.
Nous y sommes enfin. Les Françaises et les Français sont prêts et nous leur devons d'être au rendez-vous de l'histoire.
Mais la centaine d'heures de débat en séance a provoqué des questionnements, pas tous réglés, selon le président des députés Elliott, Laurent Panifous.
Certains ici présents doutent et hésitent encore.
D'autres ont tranché, ce sera non, pour beaucoup à droite et à l'extrême droite, notamment Vincent Trébuchet, siège au groupe UDR d'Éric Ciotti.
Si nous avons été collectivement incapables d'apporter à cette loi des garde-fous de bon sens, c'est peut-être que le courant était trop fort. Qu'une fois la transgression de l'interdit de tuer actée, d'exception en exception, les raisons véritables de ne pas étendre ce droit au plus grand nombre tombent.
Les anti se rassurent en se disant que si ça passe ce soir, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'aide à mourir n'en est qu'au début de son chemin parlementaire. Il s'annonce long, prochaine étape, et ce ne sera pas la dernière. Ce sera au Sénat, a priori à l'automne.
Rosalie Lafarge à l'Assemblée nationale avec Florent Bujon à la technique. Et le sujet sera donc évoqué dans Question du soir. Hier, la proposition de loi Duplomb a été rejetée. Une tactique permettant de renvoyer directement le texte en commission mixte paritaire sans débat à l'Assemblée. Les écologistes particulièrement mobilisés contre ce texte ne l'ont pas digéré. Ils dénoncent un passage en force pour faire passer une loi qui réintroduit à titre dérogatoire un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Un rassemblement a été organisée à la mi-journée près de l'Assemblée.
Oui, était présente aux côtés de quelques dizaines de députés la secrétaire générale des écologistes Marine Tondelier.
Pour nous écologistes, ce débat il devrait être même posé devant tous les Français. Il faudrait faire même peut-être un référendum pour dire aux Français oui ou non, voulez-vous qu'on remette des neurotoxiques en libre circulation dans notre environnement ? Que voulez-vous que je vous dise ? Et là, il piétine le Parlement, plus notre santé, plus notre avenir. Ils sont en train d'écrire dans la loi les raisons de nos futurs cancers en toute tranquillité. En toute décontraction.
Et avant les prises de parole, les ONG ont en préambule fait savoir qu'il était plus facile de manifester avec des tracteurs près de l'Assemblée qu'avec quelques banderoles comme ce matin. Christelle Garnier, agricultrice bio dans l'Yonne, avait fait le déplacement sans tracteur.
Ça me fait froid dans le dos, ça me met en colère, ça me donne envie de pleurer. Enfin, je me dis comment c'est possible qu'on puisse à ce point-là maltraiter le vivant, maltraiter la biodiversité, maltraiter notre espèce en fait, maltraiter la santé, maltraiter... Enfin, comment c'est possible de nous sacrifier en fait. Voilà.
Il a beaucoup été question ce matin des effets des pesticides sur la santé humaine avec des chiffres alarmants. Fleur Breteau est du collectif Cancer Colère.
Le cancer est désormais la 2e cause de mortalité chez les enfants après les accidents. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens sont un facteur de risque de cancer majeur. Et ce lien ne peut être remis en cause, sauf à céder à la désinformation organisée par l'agro-industrie. L'enjeu est clair. allez-vous céder à la pression des lobbies et de la FNSEA avec la loi du plomb? Accordez-vous le droit à l'agro-industrie de décider que notre alimentation et notre eau seront désormais empoisonnées à perpétuité? Je veux ici briser un tabou. Les plus grandes firmes d'agrochimie produisent à la fois les pesticides et les produits de base des chimiothérapies. La situation est limpide. Voter la loi du plomb, c'est voter pour le cancer.
Voilà, pas de tracteur, mais des banderoles où étaient inscrits les pesticides dus ou nourrir, pas détruire.
Véronique Rebérotte. Pour redresser les finances publiques, François Bayrou annonce qu'il va demander des efforts à tous les Français. Et le Premier ministre se dit prêt à ouvrir le débat sur la TVA sociale avec syndicats et patronats. Une très mauvaise idée, lui répond François Omeril, président de la CFE-CGC. La mesure est en revanche défendue par certains économistes et par le patronat. La CGT dénonce l'accélération des plans de licenciement en France. Le syndicat a recensé près de 400 plans sociaux depuis septembre 2023, soit quelque 150 000 emplois directs et indirects. La CGT, qui alerte depuis plusieurs mois sur cette dégradation, reproche au gouvernement de ne pas agir, Annabelle Grelier.
À la fin novembre, la CGT avait décompté près de 250 plans de licenciement. À la fin mai, le compteur est monté à 381. Une dégradation qui touche particulièrement l'industrie, les filières de la métallurgie, l'automobile et la chimie. Pour la CGT, le gouvernement ne défend pas l'emploi, mais cède au lobby des multinationales, à l'instar de Vencorex, qu'il a laissé fermer, dénonce sa secrétaire générale, Sophie Binet.
Grâce à la mobilisation des salariés, nous avions démontré qu'il y avait des alternatives. L'État pouvait nationaliser Vencorex, il a refusé de le faire. L'État pouvait soutenir le projet de reprise des salariés sous forme de SCIC, il a refusé de le faire. Nous savons que derrière, quelques acteurs industriels avaient intérêt à la fermeture de Vencorex, notamment Arkema, qui souhaite fermer une partie de ses capacités productives et qui aujourd'hui, en prétextant de la fermeture de Vencorex, organise un plan de licenciement de 150 personnes et qui a agi dans l'ombre, en lobbyiste auprès du gouvernement pour bloquer toutes les solutions portées par les salariés de reprise de Vencorex. C'est une honte parce que ça montre que l'État n'est pas au service de l'intérêt général, mais qu'il écoute toujours les multinationales et les industriels.
Autre dossier symbolique pour la CGT, le plan de reprise de la papeterie de la Chapelle d'Arblay près de Rouen, qui attend toujours le feu vert du gouvernement.
Le dossier Chapelle d'Arblay, c'est un dossier qui coche toutes les cases. Nous avons un industriel solide qui garantit à moyen terme le fait de recréer 200 emplois dans cette papeterie historique. C'est un projet environnemental et social. Ça fait un an que nous demandons à l'État, à la Banque publique d'investissement, de débloquer ce prêt. Nous sommes dans la dernière ligne droite et nous attendons une réponse dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Cette réponse, ça va être un révélateur de savoir est-ce que l'État, le gouvernement, est au service de l'intérêt général ou est-ce qu'il est au service des intérêts de quelques multinationales qui refusent et empêchent systématiquement les projets portés par les salariés et par les collectivités locales.
Sans soutien de l'État, la CGT assure qu'elle demandera une commission d'enquête sur ce dossier.
L'ancien maire RPR de Paris, Jean Tiberi, est mort à 90 ans. Après 4 mandats comme maire du 5e arrondissement, il avait succédé en 1995 à Jacques Chirac à la mairie de Paris, avant de perdre les élections de mars 2001 face au socialiste Bertrand Delanoë. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Jean Tiberi, dont la carrière politique a été éclaboussée par les affaires.
Oui, ce qu'on retient avant tout de Jean Tiberi, ce sont les affaires qui ont éclaté lorsqu'il était maire de Paris. Ses enfants bénéficiaires de logements sociaux tout en étant propriétaires. Sa femme, Xavière, rémunérée pour un rapport bidon sur la francophonie, et puis surtout l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. En échange de places en crèche, de logements sociaux et de petits boulots, Jean Tiberi a fait voter des centaines d'électeurs qui n'habitaient pas l'arrondissement. Cette affaire nous explique son biographe, le chercheur en sciences politiques Laurent Godemer, a durablement imprimé une image négative de Jean Tiberi dans l'opinion publique.
Ces affaires de ces époques-là ont duré très très longtemps. Par exemple, Jean Tiberi, l'affaire principale est médiatisée en 1997, et elle se termine vraiment en 2015, après la confirmation de la condamnation par la Cour de cassation.
Mais au-delà de ces affaires, selon Laurent Godemer, ce qui caractérise Jean Tiberi, c'est une carrière politique particulièrement longue. Il est notamment resté député de Paris pendant 44 ans, de 1968 à 2012.
C'est un des trois députés. On a eu, sous la Ve République, plus de 3000 députés. Et c'est un des trois députés qui est resté le plus longtemps élu. Donc, il a remporté 20 élections. Et il a bien sûr perdu celle de la mairie de Paris en 2001, mais en fait, il a remporté toutes les autres. Donc d'une certaine façon, c'est une réussite du point de vue de l'acteur politique.
Et en cela, Jean Tiberi incarne la manière dont se construit une carrière de responsable politique.
C'est un très bon exemple de comment on mène une carrière politique. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faut faire telle action pour monter. En fait, il faut tout faire à la fois. Il faut contrôler un territoire, être candidat en permanence, se créer des fidélités, des loyautés locales et monter dans le parti politique, avoir des mentors. Donc, dans son cas, René Capitan et Jacques Chirac. L'objectif étant quand même, on le voit, de durer pour survivre en politique.
Le dernier mandat de Jean Tiberi à la tête de la mairie du 5e arrondissement de Paris s'est achevé en 2014. Et comme parfois la politique est une drogue, il a tenté de revenir en 2020 en se représentant avec son fils, encore une fois dans son fief du 5e arrondissement. Mais l'aventure a tourné court. Leur liste n'a pas dépassé les 2%.
Stéphane Robert, le tribunal correctionnel de Nanterre se déclare territorialement incompétent pour juger Bastien Vivès. L'auteur de bande dessinée est accusé par plusieurs associations de protection de l'enfance d'avoir réalisé des dessins à caractère pornographique de mineurs dans deux albums, La décharge mentale et Petit Paul. Selon le tribunal, aucune pièce du dossier ne permet de dire que les faits poursuivis se sont tenus dans les Hauts-de-Seine. Vous avez suivi ces débats, Anne Fauquemberg.
Au-delà des faits poursuivis dont il n'est pas possible de dire qu'ils se sont produits dans les Hauts-de-Seine, Bastien Vivès n'habite pas dans le département du 92. Quant aux éditeurs, Glénat et les Requins Marteaux, également poursuivis, leur siège social se trouve à Grenoble et à Bordeaux. Après une matinée de débats et une longue suspension d'audience, le tribunal fait donc droit à l'exception de nullité défendue par la défense. Soulagement pour Bastien Vivès qui ne peut que constater la difficulté de la justice à s'emparer de cette affaire.
On a une prise de conscience aujourd'hui de certaines choses et tout ça, mais je pense pas que ce soit en interdisant des bandes dessinées que vous arriverez à sauver des enfants. Ça n'a absolument pas de rapport. Si on ne peut plus interroger, on ne peut plus donner à réfléchir de certaines représentations et même des tabous de la société, et même qu'on peut plus, que les artistes ne sont plus libres pour exprimer tout un tas de choses ou d'idées, mais c'est la mort. Ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels on n'aurait plus le droit de s'exprimer. Donnez-moi une liste des choses que j'ai le droit de représenter ou que j'ai pas le droit de représenter, mais que ce soit clair.
Côté partie civile, on ne se démobilise pas. Cécile Astolf défend la Fondation pour l'enfance et attend de pied ferme ce débat sur la frontière entre dessin loufoque et pédocriminalité.
La justice aujourd'hui, elle n'a pas été rendue. La justice, elle s'est prononcée sur un moyen de procédure. La question reste toujours en suspens de savoir si effectivement les ouvrages de Bastien Vivès constituent une infraction pénalement répréhensible.
C'est maintenant au parquet de Nanterre de décider de la suite de la procédure. Il peut notamment saisir une autre juridiction.
Anne Fauquemberg. Il avait pour mission de réaliser un audit gigantesque des dépenses de l'État américain. Elon Musk quitte son poste de conseiller de Donald Trump à la tête du département pour l'efficacité gouvernementale, le DOJ. Nous retrouvons Claude Guibal aux États-Unis. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Elon Musk se retire un jour avant la date butoir à partir de laquelle il aurait dû remplir des obligations de contrôle et de transparence incompatibles avec le fait de rester à la tête de son empire technologique et industriel. Alors pouvez-vous d'abord nous donner un aperçu de son bilan à la tête du Doge ?
Oui, il avait d'abord fanfaronné Elon Musk en affirmant être capable de trouver 2000 milliards d'économies à faire en sabrant dans les dépenses 10% du budget américain, chiffre ensuite ramené à 1000 milliards et au final, le Doge, selon ses propres données, ne revendique que 160 milliards de dollars d'économies et à quel prix ? Le démantèlement de structures fédérales en plein chaos depuis, l'éducation, les aides sociales, l'aide aux migrants, aux minorités, la sécurité alimentaire, l'aide internationale encore avec la fin de l'USAID, ce sont des milliers de personnes licenciées. Ces trois mois d'une très grande violence laissent un personnel fédéral sidéré, démoralisé, très abîmé par les insultes publiques, les intrusions dans la vie privée, les procédures autoritaires avec, souvenez-vous, des fonctionnaires sommés de se prendre en photo par exemple pour prouver qu'ils sont bien sur leur lieu de travail ou de se justifier chaque semaine de 5 tâches effectuées sous peine d'être licenciés. Bref, une fonction publique, je vous le disais, en plein chaos.
Et maintenant, Claude, le Doge peut-il survivre au départ d'Elon Musk ?
Alors, Elon Musk se retire, mais le Doge lui reste dans l'appareil gouvernemental. Sa mission ne se termine officiellement que l'an prochain. Mais sans la présence effective et sans l'autorité d'Elon Musk, eh bien cet organisme pourrait être vite contourné par les ministères qui veulent quand même reprendre le contrôle de leurs agences. C'est le cas de Marco Rubio, notamment, à la tête du département d'État. Il a voulu présenter lui-même son propre plan d'économie, plus transparent, plus conforme au droit. Et Doge pourrait en fait se concentrer sur l'innovation technologique de l'administration. C'est en tout cas ce qu'espèrent tous ceux, républicains compris, qui sont atterrés donc par les dégâts commis en moins de 3 mois.
Merci Claude Guibal. Il y a 2 ans, jour pour jour, l'Ouganda adoptait l'une des lois anti-LGBT les plus répressives au monde. Les relations entre personnes du même sexe ou la promotion de l'homosexualité sont passibles de lourdes peines pouvant aller jusqu'à la peine de mort. L'ONG Human Rights Watch dénonce dans un rapport l'institutionnalisation de l'homophobie et l'aggravation des discriminations dans le pays. Bonsoir Lisa Vili.
Bonsoir Aurélie.
La communauté LGBT ougandaise vit de plus en plus dans la peur.
Dani, par exemple, a 30 ans, son quotidien depuis 2 ans, des insultes, des menaces et des attaques, comme ce jour d'avril 2024.
Ils ont trouvé mon numéro. Ils m'ont envoyé des messages en affirmant être un vieil ami qui revenait s'installer en Ouganda. Ils m'ont envoyé de fausses photos et ils ont demandé à me voir. Quand j'y suis allé, c'était un tout autre scénario. 2 hommes m'ont sauté dessus en hurlant dans la rue, en disant qu'ils avaient attrapé un homosexuel. J'ai été battu. Ils ont pris toutes mes affaires. Ça a été une expérience extrêmement traumatisante que je n'oublierai jamais.
Dans son rapport, Human Rights Watch pointe la responsabilité des autorités ougandaises qui ont attisé la haine contre les personnes LGBT, un poison qui s'est instillé jusque dans l'intimité de Dani. Il raconte ses amis, sa famille qui se sont éloignés et les discriminations de plus en plus nombreuses.
Quelques mois après le vote de la loi, mon propriétaire m'a envoyé un message en me disant que mes voisins se plaignaient de ce que je fasse partie de la communauté queer. Ils lui ont demandé de m'expulser, sinon quelque chose risquait de m'arriver. Donc j'ai dû partir pour assurer ma sécurité.
Dani vit sur ses gardes en permanence, un quotidien angoissant et fatigant. Il confie souffrir d'une dépression qu'il soigne depuis le début de l'année. Quant à quitter l'Ouganda, il l'a déjà envisagé, mais le difficile voyage pour obtenir l'asile l'effraie.
Lisa Vili, une épidémie de choléra se propage au Soudan. En une semaine, selon le ministère de la Santé, au moins 172 décès liés au choléra ont été recensés. L'État de Khartoum concentre à lui seul 90% des nouvelles infections. Bien que critiquée par l'ONU et les ONG, la Fondation humanitaire de Gaza vient de commencer la distribution de l'aide dans le sud de l'enclave palestinienne. Pour ce système de soutien humanitaire organisé par l'occupant, porté par les Israéliens et par le gouvernement américain, c'était en quelque sorte aujourd'hui un ballon d'essai, Étienne Monin.
Penchés sur un carton un peu froissé, les Palestiniens inspectent les paquets de pâtes, le sucre, les boîtes de conserve et l'huile notamment, comme si c'était à la fois le bien le plus précieux du moment à Gaza et un objet de curiosité. Sur les nombreuses vidéos des réseaux sociaux, on voit un flot de Palestiniens qui avancent, il y a des femmes, des enfants. D'après les témoins, ce sont les voisins du centre de distribution construit tout au sud. Ce site ressemble à un fortin protégé par des hauts murs de sable. Pour l'instant, les Gazaouis ne sont pas contrôlés. Ils doivent avancer entre 2 hauts grillages, un corridor sécurisé dans lequel ils attendent sous le soleil avant de pouvoir accéder à une grande esplanade dans laquelle des employés locaux et une société américaine de sécurité font l'encadrement à portée de regard de l'armée israélienne. Dans l'après-midi, la distribution a tourné au chaos. La foule affamée a fait tomber des barrières, contourné le chemin d'accès. Les employés se sont retirés. Il y a eu des tirs. Il y aurait des blessés d'après le Hamas. Dès le premier jour, ce nouveau système a donc montré ses faiblesses. 8000 cartons ont été distribués.
Étienne Monin, l'intelligence artificielle pour monter en compétences se nourrit de nos données. Et à partir d'aujourd'hui, le géant du web, Meta, entraîne son IA sur les publications et commentaires publics des utilisateurs de Facebook et d'Instagram. Ceux qui souhaitent s'y opposer avaient jusqu'à minuit hier pour remplir un formulaire dédié. Alors il sera toujours possible de refuser cette utilisation au-delà de ce 27 mai, mais ça ne sera pas rétroactif. L'initiative continue de susciter des interrogations, Mercia Nezic.
Selon Meta, il y a un intérêt légitime à traiter ces données pour son IA, une position partagée par le Comité européen de la protection des données. L'organisme a donné son feu vert à cette démarche, mais Meta a dû le réajuster, explique Mathias Molin, le secrétaire général adjoint de la CNIL.
Au départ, on a eu de fortes doutes et inquiétudes. Et donc là, Meta est revenu un peu plus d'un an après avec plusieurs propositions. Donc il y a des choses qui sont clairement des améliorations puisque voilà, l'information a été complétée et on informe clairement les personnes maintenant de leur possibilité de s'opposer à l'entraînement de l'IA sur la base de leurs données. La mise à disposition de formulaires d'opposition. Malgré tout, on a encore des sujets d'inquiétude, d'interrogation sur la robustesse de ces mesures. On ne sait pas si le dispositif va bien fonctionner.
La CNIL a d'ailleurs déjà reçu plusieurs plaintes d'utilisateurs et des actions judiciaires doivent être envisagées, explique le juriste Jean Caton, secrétaire général du Conseil national du numérique. Pour lui, l'accord de chacun pour alimenter ces IA pourrait primer et Meta, comme les CNIL européennes, le mettent au second plan.
Il est tout à fait possible d'engager des voies de recours pour nous assurer, à commencer devant la Cour de justice de l'Union européenne, que cette interprétation du règlement sur les données personnelles, qui est un règlement européen, est conforme au droit. Et il n'en est pas du tout certain. Il n'est pas du tout sûr que l'interprétation qu'a donné le CEPD, donc ce groupement des CNIL européennes, soit conforme lui-même au droit européen. C'est là où les recours citoyens sont particulièrement importants.
L'ONG autrichienne du juriste Max Schrems a déposé plainte dans plusieurs pays européens. Quant en Allemagne, la Cour d'appel de Cologne a estimé que cette démarche n'enfreint pas la réglementation européenne. Mais ce n'est probablement que le début de ce feuilleton.
Le ciel sera nuageux demain sur le nord de la France avec des passages pluvieux. Plus au sud, le soleil dominera toute la journée. Au petit matin, il fera en général 12 à 17 degrés. L'après-midi, les températures iront de 15 sur les côtes de la Manche à 30 sur l'arrière-pays méditerranéen.